Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par les radios associatives non commerciales de votre région. C'est Radio Lodev qui en est le rédacteur pour ce mois de février. Au sommaire de ce carnet de région, Radio Aviva nous présentera le colloque contre la haine organisé par l'Université de Montpellier dans le cadre du projet européen Mandola. Avec Radio Pays d'Hérault, nous partirons à la rencontre de Latifa Ibn Zienne, la mère d'une des victimes de Mohamed Merah, qui était présente au collège de Montagnac pour parler du sujet avec les élèves. Radio Système reviendra sur la signature du protocole de préfiguration du quartier de la Costière à Vauvert et de ses conséquences. Et enfin, Yannick Manche, le chargé de mission au Parc National des Cévennes, nous parlera de l'étude hydrogéologique du Cosmé Géant au micro de Radio Intervalle.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Un colloque international sur le discours de haine en ligne, c'est le thème phare des conférences organisées la semaine dernière par l'Université de Montpellier dans le cadre du projet Mandola, cofinancé par l'Union européenne. Adèle Jomny, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et organisateur de l'événement, revient sur l'origine de ce colloque.
Le colloque entre dans le cadre d'un projet européen. Aujourd'hui, la recherche est financée souvent par la Commission européenne et souhaite qu'il y ait un consortium d'universitaires, de professionnels et d'institutions pour présenter un projet. Donc notre projet a été retenu, ce projet s'appelle Mandola. Le projet Mandola concerne 5 pays européens et le thème, c'est le discours de haine en ligne.
Le colloque a réuni des chercheurs européens, des représentants d'institutions nationales et du monde professionnel. L'objectif est d'aboutir à une jurisprudence homogène au niveau européen, ayant toute autorité sur les différents territoires. Un point d'orgue également sur les stratégies et moyens de lutte contre le discours de haine sur Internet. Abel Jomny nous en dit plus.
Il faut sensibiliser les jeunes à l'école, au lycée, à l'université, sur le discours de haine, parce que ces jeunes ne savent pas quels sont les dégâts occasionnés par ce type de discours de haine. Il y a eu des meurtres, il y a eu des suicides à cause de ce type de discours. Nous avons la chance en France de disposer d'une belle plateforme qui s'appelle Pharos, gérée par la police nationale, et qui fait un travail remarquable. Nous avons enregistré une baisse de nombre de propos haineux sur Internet grâce à ces signalements.
Et Marc Knobel, historien et chercheur au CRIF, a pris la parole pour montrer l'évolution de ce discours de haine depuis 1995.
Cette évolution commence lorsque des néo-nazis comprennent le parti qu'ils peuvent tirer de l'utilisation à l'époque de l'Internet, qui n'est pas censuré, qui n'est pas surveillé et qui pourrait servir à écouler leur propagande. Donc ils ont très vite compris cela, d'autres militants d'extrême droite également, et les choses se sont ainsi développées jusqu'à ce que l'Internet soit utilisé, alors plus gravement, dernièrement, par des islamistes fanatisés.
Internet est devenu l'un des principaux vecteurs de la haine et de la discrimination. Le nombre de sites de propagande ne cesse d'augmenter, les contrôles sont difficiles, c'est ce que constate Marc Knobel.
Pour les sites islamistes, il y a un contrôle qui est fait par les services autorisés, mais qui ne peut pas être exhaustif parce que les choses fluctuent beaucoup. Surveiller l'Internet, c'est une chose compliquée. Comment surveiller des sites qui fluctuent, qui disparaissent, réapparaissent, se transforment, sont hébergés à l'étranger, et avec une anonymisation totale, c'est très très très, très compliqué.
C'était un reportage d'Ereari Soumeng pour Radio Aviva. Je ne suis pas un modèle, mais Latifa Ibn Ziaten en a tout l'air. Elle est la mère d'Imad Ibn Ziaten, l'une des victimes de Mohamed Merah. Elle était à Montagnac début février à la rencontre des élèves du collège Jules Ferry. Rappelez-vous, c'était il y a bientôt 5 ans, le 11 mars 2012. Mohamed Merah tue 7 personnes à Toulouse, dont Imad, un jeune militaire. Depuis, Latifa Ibn Ziaten a créé une association du nom de son fils, pour la jeunesse et la paix. Le collège Jules Ferry de Montagnac vient d'être labellisé École sans racisme. Sarah Gilman, journaliste de Radio Pays d'Hérault, il n'en fallait pas plus pour que Latifa fasse le déplacement.
J'ai pardonné ce qu'il était, je n'ai pas pardonné ce qu'il a fait. Latifa Ibn Ziaten a toujours cru que Mohamed Merah ne serait pas devenu aussi haineux si on lui avait tendu la main. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Cette mère de famille consacre sa vie à parcourir la France pour délivrer un message auprès des jeunes, celui de la paix.
De raconter mon histoire, je parle dans mon cœur, je parle de ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu aujourd'hui. Quand vous entendez des jeunes qui disent « merci madame, continuez », on a commencé à perdre l'espoir à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Et ben pour moi, vous voyez, ça a démarré ce moteur, il faut le démarrer. C'est pas parce qu'on était touché par l'attentat qu'on va reculer en arrière. Le contraire, il faut avancer, il faut pas avoir peur, il faut continuer, il faut pas baisser les bras, c'est important. Bah, l'islam, c'est l'islam d'ouverture, un islam de tolérance, un islam d'amour, un islam de partage, voilà que je suis. Et c'est ça la réalité de l'islam. L'islam, il a pas dit de s'enfermer, de te cacher, de n'exister pas, au contraire. Il faut s'ouvrir, il faut... Même qu'on pratique la foi, elle est personnelle. Parce que quand vous entendez certains politiciens, ils disent « les musulmans de France », je ne supporte pas ce mot-là. Les musulmans de France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas. Les citoyens, on est tous des citoyens. L'islam, ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas une identité quand même. C'est ça que les gens ils confondent aujourd'hui, même les politiciens, je vous assure. Alors là, on sépare le peuple. C'est là que ça fait la séparation. Il ne faut pas. C'est ça le message que je passe pour les autres.
Pendant les 2 heures de conférence, Latifa raconte son histoire et répond aux questions des collégiens, tous émus par son témoignage.
Est-ce que vous avez gardé la foi étant musulmane ou vous l'avez perdue quand vous avez appris pour votre fils?
Est-ce que j'ai perdu un peu ma foi quand je... Non, au contraire, ma fille. Au contraire. Au contraire, parce que quand vous êtes musulman ou n'importe quelle pratique, je pense que je serai, ça m'a donné encore plus de force, plus de la croyance, plus que je m'accroche. Parce que Dieu, il me l'a donné et Dieu me l'a pris.
Son discours sur la laïcité, l'islam et surtout le vivre ensemble est criant de sincérité. Et les collégiens de Montagnac l'ont bien compris.
Quand je me mets à sa place, ça fait mal au cœur. Faut continuer à faire passer un message de paix.
Se respecter les uns et les autres ensemble, c'est sinon... avec les attentats et tout ça, on peut voir que s'il n'y a pas de respect, ben, ça ne peut pas marcher. Quoi.
On a tous été émus parce qu'elle nous a dit, parce que des témoignages comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Et on retient aussi qu'il faut, il faut vivre ensemble et à la liberté. Et...
Il faut se soutenir et pas lâcher, pas baisser les bras quand il y a des obstacles et... D'être comme ça.
Ovation dans la salle, les yeux rougis par les pleurs. Les enfants entourent la mère de famille pour l'embrasser, la remercier. À Latifa et Bin Ziaten de conclure, vous réussirez, vous êtes l'avenir.
Plus de 150 collégiens étaient présents pour cette conférence. Une plaque non au racisme a été posée dans l'enceinte du collège. C'était un reportage signé Sarah Gilman, journaliste à Radio Pays d'Hérault. Partons du côté du Gard pour un reportage signé Radio Système. Le protocole de préfiguration du quartier de la Costière à Vauvert vient d'être signé par l'État, la communauté de communes des Petites Camargues, la commune de Vauvert et les bailleurs. Quel est ce dispositif? À quoi sert-il? Quelles conséquences sur l'urbanisme et le cadre de vie du quartier le plus précaire du territoire? Écoutez tout d'abord Monsieur Loga, c'est le préfet du Gard qui nous explique les enjeux de ce protocole au micro de Dominique Père de Radio Système.
Le protocole de préfiguration, c'est une étape dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la nouvelle politique de renouvellement urbain, qui est soutenue notamment par l'État, mais aussi par la région, par le département. C'est une politique dans la phase qui va s'étaler sur 10 ans. Ça a commencé en 2014, ça va courir jusqu'en 2024. La phase actuelle consiste à avoir un chef de projet, une personne qui soit effectivement amenée à concevoir précisément un programme de travail, et donc avoir un programme de travail à partir duquel on va mettre en place des actions qu'on financera. C'est pour ça qu'on parle de protocole de préfiguration, puisque là, avec ce travail-là, on saura exactement quelles actions concrètes on va conduire.
Une illustration de l'amélioration de l'habitat sur le quartier de la Costière, le bâtiment du Montcalm, habité par des propriétaires particuliers qui ont vu au fil du temps la situation se dégrader. Écoutez Jean Denat qui évoque quelques pistes de transformation.
C'est par exemple la situation de la résidence Le Montcalm, d'un point de vue de l'habitat.
C'est une résidence privée, là, par contre, hein, voilà. Des copropriétaires, des personnes qui ont acheté leur appartement.
Voilà,
et
c'est
qui
pour
se trouve juste en dessous de ce qu'on appelle le Montcalm, avec le bar Le Nemrod à l'époque et les commerces.
Voilà, cette résidence Le Montcalm, c'est à l'époque donc de la construction du quartier d'habitat social, c'était une résidence donc privée dans laquelle les gens ont acheté souvent pour passer leur retraite leur appartement, et il y avait donc une galerie commerçante intéressante pour l'ensemble des habitants du quartier. Dans le temps, la situation s'est dégradée. D'une part, elle s'est ghettoisée, c'est-à-dire qu'une partie de la population est partie, une autre s'est installée. Également, donc, l'habitat s'est dégradé, c'est-à-dire que les résidents n'ont pas eu les moyens de faire les travaux qu'ont pu faire les bailleurs sociaux, par exemple, à côté, en termes d'isolation, en termes de confort à l'intérieur. Et ensuite, la galerie commerçante également s'est considérablement dégradée.
Donc ça va être pris en charge dans le cas de l'ANRU?
Alors nous avons sollicité, donc, dans le cas de l'ANRU, un organisme national qui s'appelle l'EPARECA, qui est un organisme à vocation commerciale et qui est un organisme qui engage des fonds publics sur des opérations privées. Donc l'EPARECA va conduire une étude pour voir comment réhabiliter à la fois la résidence et à la fois les commerces. Et donc les premiers constats qui ont été faits amènent à penser qu'il y aura effectivement une action forte sur les commerces et sur l'habitat. Sur l'habitat ne pourra pas se faire donc sans la contribution des habitants, mais ça va se faire avec eux. Et également sur les commerces où on peut d'ores et déjà indiquer que les premières pistes amènent plutôt à délocaliser les commerces existants, à faire en sorte qu'on retrouve une résidence où il n'y ait pas à la fois de l'habitat et du commerce avec les difficultés que l'on trouve aujourd'hui avec des squats, avec etc. Mais plutôt donc arriver à installer les commerces dans le quartier mais ailleurs, sous la forme de notre urbanisme commercial, et faire en sorte peut-être que là le pied d'immeuble soit également consacré au logement ou soit privatisé au sens de jardin privatif ou autre.
Cette démarche de transformation du quartier de la Costière à Vauvert ne pourra se faire sans l'implication des habitants. Écoutez Carole Gorgé-Deleuze, chargée de mission qui pilotera ce projet.
Voilà. Par contre, on a besoin d'un métier principal, et c'est celui de métier, c'est un véritable métier d'habiter, d'habitants, du maire.
C'est les habitants et c'est le conseil citoyen qui va aussi être là sur ce projet.
Oui, complètement.
À quel niveau?
À tous les niveaux. À chaque étape de la construction du projet, pendant 18 mois, au travers des comités de travail, des ateliers de travail sur des thématiques. Tout le monde sera associé, du comité de citoyens, du conseil de citoyens, au comité des quartiers.
Donc la question sera, comment voyez-vous votre quartier?
Oui, comment l'imaginez-vous pour demain et comment on peut le construire ensemble pour vous?
Voilà, on le voit, projet très ambitieux qui devrait, dans les 10 ans à venir, voir se transformer considérablement le quartier de la Costière à Vauvert. Mais le projet sera long à se mettre en route. En attendant, Farouk Moussa, conseiller municipal chargé de la politique de la ville, tient à rassurer les habitants qui seraient impatients.
Donc, mais par contre, il y a quand même des petits signes que la municipalité souhaite donner, notamment au travers d'un projet que l'on a monté sur l'approche territoriale intégrée, avec en premier lieu des aires de jeu qui seront à disposition des petits enfants des différents quartiers, que ce soit sur le quartier du Bosquet, que ce soit sur le quartier de la Cabidoule ou du Coudoyer.
Une page plus environnementale à présent avec Radio Intervalle qui a rencontré Yannick Manche. Il est chargé de mission au Parc National des Cévennes. Il nous présente l'étude hydrogéologique du Cosmé Géant et son objectif.
Bonjour, donc Yannick Manche, je suis chargé de mission au Parc National des Cévennes et je pilote à peu près toute la problématique de l'eau et des milieux aquatiques. Ça va de la gestion de l'eau potable jusqu'à la connaissance du fonctionnement des cours d'eau. C'est réparti sur l'ensemble du territoire et on touche à peu près à tous les domaines qui touchent à l'eau, aussi bien utilisés par l'homme que l'eau naturelle qui coule, qu'on soit là ou pas. Donc on attaque pour une durée de minimum 3 ans à partir de maintenant. L'étude dite hydrogéologique du Cosmé-Géant concerne uniquement le Cosmé-Géant, qui est un relief particulier au sein du parc puisque c'est un relief calcaire, donc dit karstique. Et le but de l'étude hydrogéologique du COS est de connaître le fonctionnement de l'eau souterraine dans le karst, au sein du calcaire, savoir où est-ce qu'il y en a, comment elle circule, et les relations entre le Tarn, la Jonte, et l'eau souterraine sur le Cosmé-Géant. Un peu dans la logique de toutes les autres études qui ont déjà été réalisées, le COS de Sauveterre, le plus proche, et puis sinon, ça a été essentiellement les grands COS, l'ARZAC avec le PNR des grands COS. Et là, le PNR fait en parallèle l'étude du Cosmé Noir, donc sur l'autre rive de la Jonte. On mène les deux études en parallèle pour la même durée. Globalement, c'est une étude qu'on espère qui va durer 3 ans et au maximum 4 ans, puisqu'il nous faut des suivis de ce qu'on appelle des cycles hydrologiques complets. Et pour avoir des résultats sur le fonctionnement des réserves en eau et du fonctionnement du karst, on a besoin de cycles hydrologiques, et un cycle hydrologique, c'est de l'automne à l'automne. À partir du moment où il y a une recharge liée à la pluviométrie du sous-sol, donc on part des pluies d'automne pour revenir aux pluies d'automne de l'année d'après, et pour avoir les meilleures données possibles, 3 ans, c'est un délai acceptable. Après, on peut les suivre pendant des années et des années, mais il nous faut un minimum de 3 ans. On a la partie, la suivi des bimétries, le volume d'eau qui circule entre la pluie et ce qui sort dans les résurgences. Ça, c'est la partie terrain. Mais on a un long travail de géologie et de mieux définir comment c'est créé et comment ont évolué les roches du Causse. Et ça, c'est une partie plus bibliographique et de bureau, avec un peu de terrain en surface, mais c'est pour connaître ce qu'on appelle la géomorphologie, donc les formations de surface. On a la partie géologique pour les formations en sous-sol, et tout ce qui est la suivi du fonctionnement de l'eau à l'intérieur. Et de ces 3-4 thématiques, on arrive à connaître le fonctionnement global de l'eau à l'intérieur du Causse. En fait, il y a plusieurs thématiques. Il y a d'abord un enjeu de connaissance, connaître véritablement est-ce qu'il y a de l'eau sous le Causse Méjean ou pas. Actuellement, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas s'il y a des volumes importants. On ne connaît pas le temps de stockage ou de transit entre la pluie et les sources, ce qui nous permettra de savoir si plus le temps de transit est long, plus ça veut dire qu'il y a du volume qui est plus ou moins mobilisable, ensuite utilisable pour une ressource en eau potable ou en agriculture. Et ça nous permettra aussi de savoir où est-ce qu'elle se situe et de la protéger des pollutions, puisque de l'eau est captée à l'aval pour les villages à l'aval et peut être utilisée en amont, mais toute pollution qui irait sur le Causse, mais Jean, ira ou dans le Tarn ou dans la Jonte, et ça permettra d'essayer de la protéger, ou même s'il y a des phénomènes ponctuels de pollution, un déversement ponctuel, d'avoir le temps, et où est-ce que ça va ressortir, et dans combien de temps ça va ressortir, donc de pouvoir prévenir les gens. Donc il y a plusieurs aspects pour le parc. Il y a l'aspect beaucoup de connaissances, et c'est une connaissance qui n'existe pas actuellement. On n'a qu'une connaissance partielle, historique, avec essentiellement le travail des spéléo amateurs, qui font du travail scientifique très intéressant, qu'on va utiliser et qu'on travaille avec eux pour tout ce qui est travail souterrain. Et ensuite, on recrée un peu en fonction de la bibliographie et des manipulations qu'on va faire sur place. Pour le système karstique, en fait, c'est d'abord le connaître en tant que tel, puisqu'on n'a pas d'état zéro. L'évolution du climat, on l'aura plus tard. Une fois qu'on aura au moins une idée précise de son fonctionnement actuel, puisqu'on part d'une connaissance très partielle, et il n'a pas été étudié historiquement. Donc on va pouvoir ensuite le suivre dans le temps, dans du plus ou moins long terme. Une fois que l'état de base, l'état zéro sera fait. Et là, on est à l'état zéro. Oui, au niveau du parc, c'est la première fois qu'il est pilote. Là, on est en association avec le BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière, l'antenne qui est basée sur Montpellier. Donc on a monté le projet tous les deux, puisque la compétence française et un service public qui est le BRGM, elle est la compétence karstologique, elle est chez eux. Mais globalement, tous les grands causses de France ont été étudiés avec ce type de méthode. Il restait à proximité que le Causse Méjean et le Causse Noir. C'est un travail très intéressant. On arrive à travailler avec beaucoup de partenaires, avec un volume financier assez important, mais c'est 4 ans de travail, du temps, énormément de temps. On a beaucoup d'argent pour tout ce qui est analyse de l'eau, parce qu'on a suivi chimique de l'eau réparti sur les 4 ans, donc chaque analyse et son ponctuel sont relativement chers, et on essaye de travailler avec l'ensemble des habitants du Causse et tous les pratiquants de la spéléo locale, que ce soit les Aveyronnais ou les gens du Gard ou les gens de Lozère, tous ceux qui connaissent le monde souterrain du Causse Méjean. Et ça, ils étaient demandeurs, et on a besoin d'eux pour pouvoir faire ce travail. Tout seul, on ne pourrait pas le faire. Et c'est tant mieux, c'est un beau travail collaboratif et qui sera constructif. Et on est sur, après, on va essayer de travailler beaucoup avec les écoles, les collèges, les animations dans la méthode classique du parc, parce que cette connaissance en tant que telle, elle n'a pas d'intérêt pour nous particulier, elle est intéressante pour les gens qui fréquentent ce territoire et qui y habitent.
Voilà, c'est tout pour ce carnet de région. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.